podcast de l'UA. Romain, cela fait maintenant plus de 10 ans que tu travailles sur ces sujets, puisque ton mémoire de M1, tu l'as abordé, initié en 2013. Et à l'issue de cette décennie de recherche, de sources, d'élaboration de corpus, mais aussi d'établissement d'une bibliographie riche de plusieurs centaines de titres, est-ce qu'il y a des livres vers lesquels tu reviens encore ? Dans lesquels tu as puisé une inspiration, un cadre de réflexion que tu remets à l'épreuve encore aujourd'hui, qui te sert de cadre intellectuel, mais aussi peut-être de cadre sensible pour nourrir ta recherche.
Bien évidemment, il y a tout un tas de travaux d'historiens et d'historiennes sur la bâtardise spécifiquement, mais j'aimerais plutôt parler d'un ouvrage qui n'est pas un ouvrage d'historien, ou plutôt de travaux qui ne sont pas des travaux d'historien, mais des travaux de sociologue, puisque j'ai été beaucoup inspiré par l'œuvre de Pierre Bourdieu, donc ce sociologue majeur du XXe siècle, et ils m'ont inspiré parce que Pierre Bourdieu aborde la construction de l'État, notamment en reprenant des travaux d'historiens, les grands travaux d'historiens des années 1980 qui ont été produits dans le cadre du programme de recherche initié par Jean-Philippe Genet autour de la construction de l'État monarchique. Et Pierre Bourdieu, il s'est servi de ses travaux d'historien pour conceptualiser un petit peu cette construction de l'État, avec son vocabulaire à lui, ses concepts à lui, et ça se retrouve notamment dans ses cours au Collège de France qui ont été publiés sous le titre Sur l'État. Et l'avantage de ces cours au Collège de France, lorsqu'on les lit, c'est qu'il y a une volonté de la part de Pierre Bourdieu de transmettre à l'oral des concepts éminemment complexes et qui sont exprimés dans un style très cérébral lorsqu'il les met par écrit. Et à l'oral, on arrive beaucoup mieux à les comprendre. Et ce qui me paraît central dans ses travaux, c'est que pour lui, la construction de l'État, elle passe par la capacité de l'État à redistribuer un certain capital symbolique. Et ce capital symbolique, il passe par l'administration. Pour lui, l'administration, ça va être les représentants du pouvoir royal qui vont être en capacité de produire une magie performative. Cette magie performative, à mon sens, c'est totalement l'essence des lettres de légitimation. C'est par un bout de papier arriver à transformer la vie d'un individu et à changer son existence juridique et même son existence sociale. Donc ces travaux, ils m'ont beaucoup inspiré, ils m'ont paru essentiels pour comprendre ce que c'était que la légitimation. Et dans un second temps, j'ai été aussi inspiré par les travaux d'un historien beaucoup plus récent et toujours en activité, Arnaud Fossier, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne et qui a publié sa thèse sous un titre que je trouve magnifique, le Bureau des âmes. Et Arnaud Fossier, il s'est intéressé à une administration pontificale particulière qu'on appelle la pénitencerie apostolique, et qui était une administration qui s'est structurée au cours du XIIIe siècle pour trouver une forme assez élaborée à la fin du XIIIe siècle, et dont l'activité s'est poursuivie tout au long de l'Ancien Régime, de la fin du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. Et cette instance pontificale, elle avait pour rôle de pardonner les péchés, mais aussi d'octroyer des dispenses. Et Arnaud Fossier, il montre comment ces dispenses, elles peuvent conditionner l'intégration d'individus dans l'Église, alors même que leur naissance était parfois les excluait de l'intégration dans l'Église. J'entends par là le fait que les enfants illégitimes n'avaient pas accès à la prêtrise, par exemple. Mais ça pouvait être aussi un défaut corporel qui pouvait exclure de la prêtrise. Ça pouvait être le fait qu'on n'était pas assez âgé pour entrer dans la prêtrise. Bien, dans ce cas-là, on pouvait s'adresser à la pénitencerie apostolique et demander des lettres de dispense qui permettaient de suspendre le droit, de suspendre les règles d'exclusion pour un cas individuel. Et ce qu'Arnaud Fossier montre très bien, c'est que cette capacité à déroger au droit, cette capacité à mettre le droit de côté pour des cas individuels, elle est intimement liée à la souveraineté, à la capacité à se déclarer comme étant une puissance souveraine. Donc, en même temps qu'il y a une construction de la souveraineté, il y a une capacité à produire des exceptions au droit. Et les lettres de légitimation, encore une fois, elles rentrent dans ce cadre. Et elles participent du même mouvement de construction étatique, de construction de la souveraineté, et en même temps d'imposition de plus en plus fréquente du monde juridique à l'ensemble de la société.
Romain, tu as manifestement développé une attirance particulière, un goût particulier pour tout ce qui relève de l'abstraction juridique, de voilà ce que Pierre Bourdieu appelle la magie performative, la fabrique du droit pour Arnaud Fossier. J'ai toutefois en mémoire aussi que lorsque je t'ai interrogé sur ce que pourraient être des usages contemporains dans la littérature contemporaine ou dans des parcours de vie du XXe siècle récent autour de la figure du bâtard ou de la place de la bâtardise, tout de suite, tu as mis en tête de florilège, l'ouvrage de La Bâtarde de Violette Leduc, qui semble être aussi un cadre sensible qui te déplace, qui te bouscule et qui a conditionné aussi, conduit, construit un regard sur ces parcours de vie qui ne sont pas que des abstractions administratives.
Quand je me suis intéressé aux lettres de légitimation et à tout ces aspects très administratifs autour de la bâtardise, j'ai dû faire des recherches bibliographiques. Et puis, ben, quand on tape bâtard, bâtarde dans des moteurs de recherche de bibliothèques universitaires, ben, il y a un ouvrage qui ressortait assez régulièrement, c'était La Bâtarde de Violette Leduc. Donc je me suis rendu compte que ce n'était pas un ouvrage d'histoire, c'était de la littérature contemporaine, mais je me suis dit qu'il fallait quand même y jeter un œil, il fallait quand même lire ce livre pour voir ce qu'il pouvait y avoir comme perception de la bâtardise à l'époque où cette autrice l'a écrit. Donc, c'est un ouvrage de 1964. Et Violette Leduc, elle a fait cet ouvrage, elle a écrit cet ouvrage autobiographique pour parler de la honte. C'est une notion qui est centrale dans cet ouvrage. Et c'est vraiment un roman de la honte. C'est comme ça que l'a appelé notamment Didier Ribon, un autre célèbre sociologue. Et dans cet ouvrage, Violette Leduc, elle montre que tout son parcours, toute sa vie, a été conditionné par le fait qu'elle soit née hors mariage, qu'elle soit née d'un adultère, et qu'elle a été rejetée par son père dès la naissance.
Dans cette collection de podcasts, on proposera à une jeune femme ou à un jeune homme de bien vouloir prêter sa voix aux premières pages de la bâtarde de Violette le Duc, dans laquelle elle s'adresse à sa mère, cette femme dont la faute rejaillit sur son propre corps à elle et sur sa propre trajectoire de vie. Mais toi, le passage que tu avais envie de mettre en valeur, il est un petit peu plus loin dans les pages de cet ouvrage de 1964. Est-ce que tu voudrais bien prêter ta voix aux mots de Violette le Duc?
11h30 du soir. Mon poste de radio est ouvert. Calypso, blues, samba. Les bâtards sont maudits. Un ami me l'a dit. Les bâtards sont maudits. C'est le glas, le tocsin sur les calypso, les blues, les sambas. Pourquoi les bâtards ne s'entraident-ils pas? Pourquoi fuient-ils? Pourquoi se détestent-ils? Pourquoi ne forment-ils pas une confrérie? Ils devraient tout se pardonner, puisqu'ils ont en commun ce qu'il y a de plus précieux, de plus fragile, de plus fort, de plus sombre en eux. Une enfance tordue comme un vieux pommier. Pourquoi n'existe-t-il pas des agences matrimoniales afin qu'ils se marient entre eux? Je voudrais voir écrit en lettres de feu « Boulangerie pour bâtard ». Ainsi, stupidement, je n'aurai plus d'étringles dans le gosier lorsqu'on dit « Vous me donnerez un bâtard ». J'ai toujours voulu que dans Marty, l'admirable film américain, les deux timides qui se trouvent enfin soient deux bâtards. Donc cet extrait de La Bâtarde de Violette le Duc me paraît intéressant à plusieurs titres. Violette le Duc, dans cet extrait, elle semble se poser la question de pourquoi il n'y a pas d'action collective des bâtards. Pourquoi il n'y a pas de sentiment d'appartenance commune de la part des bâtards. Pourquoi il n'y a pas de lutte sociale de la part des bâtards pour essayer de sortir de leurs conditions. Et ça nous ramène en fait à la question de l'hétérogénéité de la condition de bâtard. Cette hétérogénéité, elle est parfaitement visible aussi au Moyen-Âge. Et dans les derniers siècles du Moyen-Âge que moi j'étudie, on voit bien que les lettres de légitimation, elles s'adressent à des bâtards qui sont issus de tout horizon social. Et on voit que les conditions de vie de ces bâtards ne sont pas les mêmes selon leur origine sociale. Un bâtard noble n'a pas d'intérêt commun avec un bâtard issu de la paysannerie ou avec un bâtard même issu de la bourgeoisie. Il y a un texte que j'ai découvert récemment et qui date de la fin du XIVe siècle et qui me paraît rejoindre ce que nous dit Violette le Duc. Donc ce texte, je ne l'ai pas découvert par moi-même. C'est dans le cadre d'un séminaire auquel j'ai été invité à Sorbonne Université, séminaire co-dirigé par Romain Tellier. Et Romain Tellier nous a, au cours de ce séminaire, distribué un exemplier pour appuyer sa communication. Donc une liste d'exemples qu'il a commenté au cours de son propos. Parmi ces exemples, il y en avait un qui m'a frappé. C'est une lettre qui vient d'un registre du Trésor des Chartes, une lettre de rémission. Donc une lettre de rémission, c'est une lettre de pardon royal envers des personnes qui ont commis un crime. Dans ces lettres de rémission, le pardon, il intervient après que le crime il a été relaté dans tous ses détails. Donc on a accès à tout un tas d'histoires qui sont très intéressantes pour les historiens, qui ont été largement étudiées, notamment par Claude Gauvard, et ça nous donne accès à tout un folklore de discussions qui dérivent en bagarre et qui peuvent passer par des affrontements oraux et des injures qui sont échangées. Et donc le récit de ces conflits amène ensuite à l'aveu du crime, puis à son pardon par le roi. Dans une de ses lettres de rémission, que Romain Tellier avait étudié, eh bien, il y a un conflit entre deux personnes qui sont marquées de cette macule de bâtardise. Donc, deux personnes qui sont ivres vont se disputer.
1394, Archives nationales de France, double J 151, folio 132. Guillaume Agot, pauvre couturier, avait épousé Marguerite, fille bâtarde de Gilles Casselin, seigneur de Montagu. Tous deux ivres, ils s'étaient disputés avec Guillonnet Rizan. Survint Jean, bâtard de Pierre de Ruffin, qui leur dit « Vous dites vilenie à meilleur de vous ». Marguerite le démentit, assurant que Guillonnet n'était pas meilleur. Et lors, le dit bastard par injure et vilenie, la appela sa sueur, disant que « elle estoie aussi bastarde ». Et elle lui répondit que « elle n'estoie pas sa sueur en bastardage et valoit mieux qu'il ne faisoit ». Et lors, le dit bastard, en la injuriant et despitant, lui dit que « elle estoie gentille femme du côté d'un pauvre homme nommé Proposa », en voulant dire qu'elle n'estoie mi-fille du dit sire de Montaigu.
Alors cette source, elle m'intéresse et je l'ai trouvée exceptionnelle quand Romain Tellier m'a donné l'occasion de la connaître, parce qu'elle rejoint ce qu'on voit dans l'extrait de Violette le Duc qu'on a mis en valeur, c'est qu'il y a une hétérogénéité complète dans la condition de bâtard et il y a une impossibilité de faire intérêt commun. Là, on voit deux bâtards qui, au cours d'une dispute, font éclater cette hétérogénéité. D'un côté, il y a un bâtard qui s'adresse à Marguerite et qui va lui dire, qui va l'appeler sa sœur, puis disant qu'elle estoie aussi bâtarde. Et elle, elle lui répond qu'elle n'était pas sa sœur en bastardage, terme que je trouve fabuleux, de bastardage, comme s'il y avait ça instaurait une sorte de condition commune, mais en même temps qu'elle envisage comme hétérogène. Et on comprend par la suite pourquoi elle estime qu'elle n'est pas sa sœur en bastardage, c'est parce que elle est fille d'un seigneur. Et donc elle sous-entend que puisque son interlocuteur n'est pas bâtard d'un seigneur, ils ne peuvent pas avoir une condition commune. Ils ne peuvent pas partager quelque chose en commun. Même s'ils sont bâtards tous les deux, ils ne font pas partie du même monde. Et donc derrière, son interlocuteur va nier sa filiation avec un seigneur en disant « Non, non, vous êtes fille d'un pauvre homme nommé Proposa. » Donc, on voit à travers ça que le fait d'être bâtard, c'est pas univoque, c'est pas une seule chose. On peut être bâtard et ne rien se reconnaître de commun avec un autre bâtard.
Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent, je suis accueilli par la MIF comme Lee Welling à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère, subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards, pour chasser comme les albis jouant en pays de Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres, j'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants. Mais on se trimballe des mines de cafards, un stylo, un style de barbare, pour mettre en musique des rimes de bâtard. Il nous faut juste une prise, un tel ou un tel. Nous on sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des maculés, des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des raturés, des pages. Je prie pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des feuilles brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclaircies, y'en a pas une seule par journée. pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de...